Je vais essayer de donner quelques idées fortes, comme on dit, quelques idées fondamentales qu'on peut extraire de l'ensemble des contributions. Alors, première chose que j'ai retenue, qui est assez transversale, le changement est une nécessité, mais il n'est pas une fatalité. Donc on voit que dans le contexte de la transition écologique, le changement est perçu comme quelque chose de nécessaire. Et en même temps, il n'est pas une fatalité, en ce sens que il n'est absolument pas garanti que quelqu'un change, même s'il rentre dans un processus de changement. Et c'est ce que Séverine a répété. La personne est maître de son changement, elle reste dans une approche humaniste des choses, mais sans doute même dans une approche opératoire, on peut le supposer. De la même façon, même si on a des très bonnes raisons de changer, ce n'est pas ça, pas plus que le reste, hein, qui offrira une garantie que cela va effectivement changer. En réalité, on l'a vu, il y a une multiplicité de voies possibles du changement qu'il s'agit d'explorer. Et on voit bien que par rapport à une conception du changement qui repose sur la notion de modèle avec... Ils ont l'impression que tout cela est un peu verrouillé. Là, on a vu émerger une conception du changement, qui laisse de la souplesse, pour ne pas dire du vague. Il y a une place pour le vague, hein, pour l'imprécision, éventuellement pour le retour en arrière, le réversible, qui est même sans doute tout à fait nécessaire, indispensable. Par ailleurs, on a vu que le changement, ce n'est pas qu'une contrainte. Il peut apparaître également comme une opportunité. Il y a un ensemble de méthodes qui permettent de modifier le regard justement sur ce changement, hein, pour le faire bouger la perception, la représentation qu'on a, hein, d'une contrainte vers une opportunité. Et on peut d'ailleurs construire un sens à cette opportunité, construire le sens, hein, de ce changement. Ce qu'on a souligné également, c'est que dans ce processus, il existe des phases ou des stades du changement. On a eu plusieurs versions, hein, de ces phases ou de ces stades. On voit aussi que même s'il existe des phases ou des stades de ce changement, ce n'est pas un processus forcément linéaire. Donc il faut penser l'interaction, la rétroaction entre ces différents stades, ces différentes phases. Ce qui a été noté également, c'est qu'il existe des expérimentations en matière de changement et qui nous oblige à assumer en fait la singularité et l'incertitude également, hein, de ces processus. Deuxième grande idée que j'ai retenue, le changement comprend une double dimension matérielle et idéale, on peut l'appeler aussi symbolique, spirituelle, etc. Donc le changement, hein, ce sont évidemment des processus concrets, hein, qui vont toucher la vie des individus. On peut passer par des incitations, hein, dont on a vu plusieurs exemples, mais il oblige aussi à jouer sur la motivation, ce qui constitue le moteur, hein, du changement. Et à ce titre, on a vu qu'un certain nombre d'incitations matérielles étaient même pas peut-être des conditions nécessaires, mais en tout cas pas des conditions suffisantes, hein, pour provoquer ce changement, mais aussi pour le maintenir. Donc il faut autre chose, au-delà de la dimension matérielle, et... On peut supposer que le fait de travailler, hein, sur cette dimension spirituelle, symbolique, idéale également, est quelque chose d'essentiel pour ce changement. Alors j'ai bien aimé aussi la relation qui a été faite, notamment dans les exemples liés à l'architecture, ou l'urbanisme, entre l'idée et la matière. Donc on voit ce qui est assez impressionnant, comment des idées portées par des acteurs prennent corps progressivement dans des dispositifs matériels, hein, des habitats, des constructions, etc., des plans. On a vu aussi que la participation et la coopération des acteurs permettaient de faire ce lien entre ce qui relève de l'idée et ce qui ensuite va pouvoir se traduire dans des dispositifs, et permet d'explorer cette participation, cette coopération, un nouveau champ possible, mais cela suppose de laisser une capacité d'action aux acteurs, alors peut-être pour la conception, dans les phases amont, donc une latitude, hein, dans l'imagination, hein, des configurations possibles, mais aussi peut-être pour le fonctionnement lui-même, c'est-à-dire laisser toujours une porte ouverte, hein, pour que les acteurs puissent s'approprier, hein, ce changement, éventuellement même revenir en arrière ou prévoir la suite, les successeurs qui viendront après eux. Alors dans cette interaction entre une variété d'acteurs, la médiation peut jouer son rôle. De même que, on l'a vu, la posture d'écoute qui permet de laisser un des acteurs recenser leur espace de contrainte et éventuellement aussi leur donner la possibilité ainsi de transformer ces contraintes en opportunités. On a également évoqué la force du récit, au-delà des arguments, au-delà des raisons qu'on a changées. Le récit joue son rôle pour donner un sens à ce changement. Enfin, troisième grande idée qui fait directement le lien avec le thème de la journée, le sacrifice et l'exercice, comment on passe du discours à l'action. Alors, on a vu que la notion d'assaise, vous pouvez comprendre ces deux dimensions, de l'exercice et du sacrifice. Cela dit, on a vu dans une des interventions de ce matin que le sacrifice n'est pas forcément quelque chose de gratuit, qui s'inscrit dans le cadre d'un échange. Et il peut même impliquer une rétribution, une gratification qui lui donne un sens. Et il a été suggéré également que le sacrifice, c'est le sacrifice de quelque chose du passé au profit du présent. Et ça peut être aussi le sacrifice d'un modèle du passé qui permet en fait de produire un nouveau modèle pour le présent, pour le futur. Alors, ce qui a été suggéré également, c'est que on peut donner un sens au sacrifice également, en donnant l'occasion à ceux qui le vivent le trouver même agréable, justement, s'il a un sens. C'est le cas des films de Dr. Marsh, que j'ai trouvé très intéressant. Alors, on voit aussi que le déroulement du changement passe par plusieurs stades. Qui peuvent apparaître comme assez inévitables. Tout d'abord le constat, ensuite la résistance, et puis l'acceptation ou l'action. Ce qui a été souligné également par Cédric, c'est que le passage à l'action n'est qu'un aspect du changement. Même si on a tendance à se polariser pas mal sur ce moment critique du passage à l'action, en réalité ce n'est qu'un aspect du changement. Sans doute un des aspects les plus délicats, mais pas le seul, et du coup il y a derrière cette notion, cette réflexion, cette idée selon laquelle les leviers qui permettent de jouer sur le changement sont plus ou moins pertinents selon l'étape à laquelle on se trouve. Il y a parfois des étapes qu'on peut appeler primordiales dans lesquelles un certain type de discours, de dispositif ne sera pas pertinent. Parce que nous n'en sommes pas encore là, et les acteurs en réalité ne sont pas encore entrés dans ce processus de changement. Voilà quelques trois grandes idées qui pourraient résumer, selon mon prisme personnel, ce que j'ai pu apprendre.
Ouais. Merci, oui.
Je voudrais juste dire un petit mot en petit clin d'œil, c'est que c'est par rapport à la temporalité et à la confiance, c'est que ce matin, j'ai évoqué Alcott qui avait tenté de créer ses Fruitlands, qui était une totale utopie à l'époque. Et aujourd'hui, là, on a parlé d'habitat frugal. En fait, on s'aperçoit qu'en 130 ans, les idées ont évolué et la nécessité, l'urgence, fait que quelque chose qui était une utopie devient aujourd'hui une idée qu'on peut creuser, et même dans un grand groupe. Voilà. Ouais.
Je pense qu'il faut rencontrer nos imaginaires, se mettre ensemble. C'est comme ça qu'on peut avancer.
Bien, merci.
Je dirais dans le même sens, de l'importance de la fiction, c'est-à-dire croire collectivement à des histoires basées sur des éléments. Et cet après-midi, je crois qu'on a vu un peu des médiateurs vers cette construction d'une fiction collective.
Oui, je pense juste une dernière chose, c'est que par rapport au dernier exposé, il me semble que l'apport majeur du dernier exposé par rapport aux trois précédents, c'est que les trois précédents finalement centrent leur attention sur l'individu et sa capacité à. sa capacité à changer, etc. Et il me semble que peut-être ce qui est important dans le dernier exposé, c'est la dimension collective, c'est-à-dire que les désirs individuels sont infinis. C'était Durkheim qui disait ça. Et finalement, la société, elle s'imprime, elle se manifeste notamment par la contrainte. Et il me semble que la question du sacrifice, elle se pose là. C'est-à-dire que aujourd'hui, collectivement, ce que change la transition, c'est que on demande des capacités supérieures aux individus, c'est-à-dire que des capacités qu'on ne leur demandait pas précédemment. Avant, on leur demandait finalement de restreindre leurs propres désirs. Aujourd'hui, ce qu'on leur demande, c'est prendre en charge le destin de la planète. Donc la question du sacrifice, elle se pose là, c'est-à-dire que finalement, on passe de capacités qu'on demandait à des individus de gérer leurs propres désirs. Là, avec la transition, on demande aux individus de prendre en charge, d'être capables de prendre en charge le destin de la planète. Donc on voit que c'est une échelle totalement différente et que finalement la question des besoins, la question des capacités, elle se pose différemment.